France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, chantait Georges Brassens. Cette mort peut se décliner de plusieurs façons. Sacrifice, guerre, acte de sabotage, mais aussi lutte institutionnelle, où on ose parler contre un régime donné, où l'on clame haut et fort ses convictions, tout en sachant que l'on risque d'y perdre la vie, ou du moins la liberté. C'est le cas de l'homme politique et écrivain tchécoslovaque Arthur London, condamné lors des fameux procès de Prague en 1952, sorte de purge stalinienne des cadres du Parti communiste tchécoslovaque, sur fond de mensonges d'État. À 41 ans, il a passé un quart de sa vie en prison et tire de cette expérience un livre, L'aveu, qui sera adapté en 1970 au cinéma par le réalisateur franco-grec Costa Gavras. Dans ce numéro des chemins de la connaissance de Vera Feder, c'est plus spécifiquement du rapport au temps du prisonnier que vient s'entretenir London. Il évoque un temps mort, suspendu, invisible, tant les repères temporels habituels sont absents de ce quotidien morne. Vivre en prison, c'est alors suspendre sa vie et renoncer sans avoir le choix à quelque chose de très précieux qui ne pourra jamais être attrapé ni remplacé. La prison comme privation d'être, comme du temps volé donc, c'est tout de suite, dans une émission diffusée pour la première fois le 29 novembre 1971.
Le temps habitable, une série d'émissions composées par Vera Feder. Aujourd'hui, 8e émission, les temps morts, la prison. Entretien avec Arthur London, auteur de l'aveu. Des extraits de ce livre seront lus par Robert Martin.
Arthur London est surtout connu en France pour son livre L'aveu, où il raconte comment, en janvier 1951, il fut arrêté à Prague, tenu au secret pendant 27 mois, et ensuite condamné aux travaux à perpétuité, pour n'être réhabilité qu'en 1956. Rappelons que pendant la dernière guerre, Arthur London est entré dans la résistance française de 1940 à 1944, puis a été arrêté et déporté au camp de Mauthausen. Arthur London vit en France depuis 1963. Il est né en Tchécoslovaquie en 1915. Arthur London, vous avez 56 ans et vous m'avez dit l'autre jour que vous avez passé 10 ans de votre vie en prison.
Oui.
C'est presque un sixième de votre vie. Quand vous pensez à ce temps, c'est-à-dire quand vous additionnez ces différents temps de la prison, quelle place occupe-t-il dans votre souvenir, c'est-à-dire dans... quand vous y pensez?
C'est surtout la dernière période que j'ai passée en prison, les dernières 5 années, qui m'ont laissé l'impression d'avoir été privé du temps, d'un temps précieux. Et je me suis rendu compte plus par la suite, en prenant ma place dans la vie, qu'il y a une grande étape qui, sans le vouloir, sans ma faute, par une tierce force, m'a privé de quelque chose de très précieux. Dans la première période, ce n'était pas le cas.
Vous aviez quel âge la première fois que vous avez été en prison?
La première fois, j'avais 16 ans. Pour des activités politiques, d'ailleurs, pendant tout ce temps-là. Et j'ai passé, avant-guerre, 2 ans dans l'ensemble en prison, 3 ans pendant la guerre et 5 ans après la guerre. Je suis sorti, j'avais 41 ans. Et de ces 41 ans, j'avais passé 10 ans en prison.
Alors là, c'était encore pire, c'était un quart de votre
vie. Oui, c'était le meilleur temps, les meilleures années que j'ai passé en prison. Et la première moitié, je n'ai pas le sentiment, ni aujourd'hui, ni alors, à l'époque, d'avoir été privé de quelque chose, parce que mon séjour en prison, c'était une chose volontairement acceptée dans le sens volontaire que j'avais choisi une voie dans ma vie, militante politique, dans le mouvement communiste, et je savais que la prison faisait partie ou pouvait faire partie de cette vie, de cette lutte. Alors que la dernière fois, les dernières 5 années, c'était pour rien. J'étais innocente, j'attendais d'être condamné à mort, j'étais arraché de ma vie, de ma famille, du monde, sans aucune raison. Et là, les choses étaient beaucoup différentes.
4 pas jusqu'au mur. 2 tours. 4 pas jusqu'à l'autre mur. Les fissures des murs, sur lesquelles retombe invariablement mon regard, prennent peu à peu figure humaine. D'abord par jeu, intentionnellement, je m'applique à recomposer les traits de mes camarades de combat. Et puis, la folie bascule la fiction. Les lézardes s'élargissent jusqu'à leur livrer passage. Comme dans un accouchement, d'abord leur tête apparaît. Ils me sourient, puis sort leur corps. Ils sont là auprès de moi. Ils emplissent ma cellule. Ils marchent avec moi et nous discutons longuement. Notre combat, son but inlassablement recherché, conserve-t-il leur valeur? Nous les confrontons avec ce que font de moi, de mes co-accusés, les inquisiteurs de cette prison. Ils hochent la tête. De même que tu ne peux te dégager de ton passé, où tu te réfugies sans cesse pour oublier le présent. De même, tu ne peux renier ta vie avec tout ce qu'elle a comporté de courage, de lutte, d'amitié.
Mais quand vous étiez en prison, donc justement, alors ces 5 années dont vous venez de parler, est-ce que vous n'aviez pas l'impression que non seulement on vous volait 5 ans de votre vie, enfin vous ne saviez pas que ce serait 5 ans de votre vie, vous pensiez que de toute façon... On vous achevait,
oui,
on achevait
votre
vie.
Je m'attendais à être condamné à mort.
Oui, donc il y avait ça. Mais est-ce que vous n'aviez pas en plus cette double sensation que non seulement donc on vous prenait le temps présent, le temps chronologique qui vous restait à vivre, mais qu'en même temps, on niait le temps que vous aviez vécu avant puisqu'on cherchait à faire de vous un autre homme. On essayait de vous faire passer pour ce que vous n'étiez pas. Donc c'est une façon de nier votre existence, c'est-à-dire qu'on accumulait du temps contre vous.
Oui, vous avez raison, ce sentiment existait, il était très fort, il y avait des choses qui étaient tout à fait différentes pendant ces années. J'ai passé 27 mois dans l'isolement le plus complet, dans des conditions les plus dures de l'isolement. Et là, j'ai eu l'impression que... On voulait faire de moi quelque chose d'autre que je n'étais jamais. Évidemment, la peur de qu'on ne réussisse pas, parce que j'avais aucun moyen de défense.
Non seulement vous n'en aviez aucun, mais on s'arrangeait pour les neutraliser tous. Enfin, vous en aviez des moyens de défense, mais je veux dire, votre vie même, le fait d'être en vie était une façon déjà de vous défendre.
Oui, mais je n'ai jamais regretté ma vie passée. Et pendant ces 5 années, jamais j'ai regretté ma vie passée. J'étais en... paix avec moi-même. Je savais que ma vie était bien, qu'elle était juste, que j'avais choisi la bonne voie. Et de ce point de vue-là, je n'ai jamais regretté le temps passé, ma vie en arrière. Ce que j'ai regretté, c'était le temps présent. Et d'ailleurs, il y avait des moments où on saisissait la notion du temps de manière tout à fait différente.
Vous étiez dans l'obscurité?
J'étais aussi dans l'obscurité, dans l'isolement complet, sans bruit. Et la chose la plus épouvantable était de se trouver dans cet étau du temps qui pesait très lourdement pendant cette période et de perdre la notion du temps. C'est quand on ne distinguait plus si c'est jour, si c'est nuit. On ne savait plus quel jour on est, quelle semaine on est. Et là, c'est une chose épouvantable parce que on est tout à fait miné. On est brisé et on se perd soi-même.
Mais on n'a plus de repères.
On n'a plus de repères. Il n'y a plus aucun terme dans la vie, il n'y a plus rien. Et ça, c'est la chose la plus épouvantable. Et une deuxième chose qui est très grave, c'est quand on arrive à un moment, on a l'impression de vivre hors du temps, de continuer à être là, arraché de la vie, que la vie est déjà, ne me concerne plus, et on vit hors du temps. Et à ce moment-là, il y a évidemment des moments de folie qui arrivent, ou la fiction, parce qu'on essaye de meubler son temps le mieux qu'on peut, de le dominer, de le saisir le temps.
Et puis c'est la seule façon peut-être de se raccrocher à la vie.
C'est la seule façon de se raccrocher à la vie, oui. Et à ce moment-là, il y a des moments où la folie bouscule la fiction. Et des moments comme ça, j'en ai eu assez souvent, notamment le premier temps où j'étais 27 mois dans un isolement complet. Tout seul dans une cellule, où je voyais rarement le ciel par la lucarne de la fenêtre, où j'entendais pas de bruit, et où il y avait des périodes de 1-2 mois où jour et nuit se confondaient, où je savais pas s'il faisait jour, s'il faisait nuit, où j'avais aucune notion du temps. Je me sentais ballotté comme une chose sans volonté, sans repère, sans rien à quoi m'accrocher. Car c'est important quand on peut garder la notion du temps, quand on peut savoir les jours, quand on peut savoir les mois, quand on peut savoir l'heure de la journée. Évidemment, peu à peu, on s'habitue tellement à cette solitude, à cet isolement, qu'on finit par parvenir.
Mais vous aviez une idée des saisons, par exemple ?
Une idée des saisons, oui, bien sûr. Oui. J'ai mesuré le temps et l'heure de la journée, j'ai fini par quelque sorte avoir des radars qui traversent le mur, l'ombre des rayons du soleil contre le mur. Cela me permettait d'avoir un repère de l'heure. Et je suis arrivé à avoir une imagination assez exacte de l'heure qui faisait tel jour. Mais les ombres changeaient avec la saison. C'était plus long, moins long. Et cela, ainsi que les vêtements des gardiens de prison, des choses comme ça, permettaient d'avoir une certaine notion de saison. Ensuite, il y avait quand même certains bruits qui pénétraient dans la cellule. Il y a des bruits en été, chants d'oiseaux. C'est qu'en hiver n'existait pas.
Oui.
Et des repères comme ça, on avait. On arrivait à avoir.
Vous aviez des repères de temps aussi pendant les interrogatoires ?
Oui.
Vous saviez combien de temps ça durait à peu près ?
Les interrogatoires duraient à peu près 20 heures par jour et j'ai arrivé à me repérer. Au bout d'un certain temps, par exemple, vers le matin, il y avait une atmosphère ouatée qui régnait. Celui qui m'interrogeait était fatigué, il y avait quelque chose. Le temps était différent des autres heures dans la journée. Le matin, il y avait le pic vert devant le bureau du référent, c'est-à-dire celui qui m'interrogeait. Et je savais que quand le pic vert commençait, c'était environ 3h du matin, 3h30 du matin. Alors, j'avais ces repères-là. Et puis il y avait le bruit de la prison qu'on apprenait à connaître et qui permettait à s'orienter et savoir quel temps il faisait à peu près. Ce qui était difficile, par exemple, quand vous êtes orienté après les rayons du soleil, l'angle de l'ombre dans la cellule, et quand il y avait un jour gris,
il n'y
avait pas de soleil, alors il n'y avait pas de repère, ça, on était désorientés. On se retrouvait avec le soleil, après de nouveau on se retrouvait.
Vous aviez l'impression, quand on vous interrogeait, que les gens qui vous interrogeaient, eux, continuaient à vivre tout à fait normalement, c'est-à-dire dans leur temps propre, dans leur temps défini?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, ils se relayaient. Pour eux, ça ne jouait aucun rôle. Ils étaient dans la vie, ils avaient leur famille. C'était tout à fait autre chose. La chose était évidemment différente pour moi parce que on créait devant moi un monde qui n'a pas existé, un monde artificiel. On voulait m'amener à faire des déclarations fausses, des déclarations qui me présentaient comme quelqu'un de tout à fait différent de ce que j'étais. Alors pour moi, les choses étaient tout à fait différentes. Et puis on finit par être brisé, par ne plus pouvoir résister, par accepter plus ou moins les choses qui vont imposer parce qu'on est miné, les forces sont minées. on n'a plus la force de résister. Et puis les notions sont différentes, on commence à... le temps joue énormément, on abdique de la vie. On voudrait que ça soit fini le plus vite possible. On n'en voit pas la fin, il n'y a pas de terme dans la vie. À quoi bon de continuer?
La tentative de suicide que vous avez faite, c'est à cause de ça. Je veux dire que pour vous, ça représentait la fin des souffrances, la fin de cette négation qu'on vous contraignait à faire.
Oui, c'était la première tentative de suicide. J'en ai fait 3. La première était la plus sérieuse, c'était ça, essayer de finir avec tous ces problèmes, tous ces aspects, toute cette vie, mon isolement. Et la durée 18 jours, c'était une grève de faim, cachée, masquée, camouflée, pour éviter qu'on me nourrit artificiellement. Et où j'étais avec beaucoup de précautions, ma nourriture, peu à peu, parce qu'on était constamment surveillés, même pendant le repas, il y avait les petits Judas qui étaient occupés par des gardiens de prison, qui regardaient. Et j'ai tenu comme ça 18 jours. Malheureusement, c'était une tentative qui n'avait pas réussi. Et dans un mouvement de révolte, j'ai décidé d'interrompre cette grève de fin de 18 jours et de continuer à me battre. J'étais très malade par la suite, j'avais perdu dans 17 kilos. Je tenais à peine debout et je voulais commencer à me battre. Après, j'ai fait encore 2 autres tentatives de suicide qui étaient moins importantes parce qu'il n'y avait pas de moyen de se suicider en cette prison. C'était presque impossible. Il fallait chercher les artifices les plus invraisemblables.
Le pire, c'est lorsqu'on sait que plus rien ne peut vous aider. C'est mon cas maintenant. D'autant que toujours, toujours revient la menace de me faire juger à huis clos, avec comme seule issue la corde. Cela signifierait être liquidé dans l'ombre et porter à jamais la marque infamante du traître, sans espoir que la vérité éclate un jour, car les morts ne parlent pas. Dois-je donc accepter une telle mort en niant jusqu'au bout? Qui peut accepter de mourir ainsi? C'est seulement quand l'homme a fait don de sa vie à une cause exaltante, consciemment choisie, que son sacrifice a un sens. Pour celui qui reste en vie, il subsiste la lueur, faible sans doute, mais la lueur quand même, de pouvoir un jour faire éclater la vérité et son innocence. Car dans le plus profond de vous-même, il y a l'espoir que les choses n'en resteront pas là et qu'un jour, les conditions seront données pour rétablir la vérité.
Mais qu'est-ce qui fait dans les moments où alors on a l'impression que tout est perdu, où à la fois on est délabré moralement, physiquement, qu'est-ce qui fait qu'on passe alors de l'idée de se suicider à l'idée de continuer à vivre?
C'est la volonté, avec cette particularité de mon arrestation, de mon procès, tout ça, et c'est la volonté de dire aux amis, aux camarades, au monde extérieur, que ce n'était pas vrai, qui avait une mystification horrible qui se réalise et qui s'était réalisée. Je pense au procès de Moscou, au procès de Sofia, au procès de Budapest, et leur dire la vérité. C'est en quelque sorte un dernier service qu'on voulait rendre à ses amis, à la chose pour laquelle j'avais consacré toute ma vie, et c'est là qui m'a tenu jusqu'au procès, oui. Jusqu'au dernier moment.
Vous vouliez mourir tel qu'en vous-même, voilà. Tel que vous aviez toujours été.
C'est ça, oui. Parce que je ne comptais pas que je m'échapperais à la mort, mais je voulais encore un instant dans ma vie, encore retrouver mon passé, retrouver mes idées, mon idéal, pour lequel je m'étais engagé très jeune.
Et ce temps qui vous a le plus manqué, si j'ai bien compris, en lisant l'aveu dans votre livre, qui est le temps du sommeil, ça se passait comment? C'est-à-dire que les moments où vous tombiez de sommeil et où vous arriviez à tomber dans le sommeil, où on vous laissait dormir?
On me laissait au début, on me laissait pas dormir. C'était au contraire, c'était une méthode justement pour briser l'homme. C'est d'empêcher qu'il dort. Et ensuite, on m'a tenu éveillé parfois 4-5 jours de suite sans un instant de sommeil. Plus tard, on a procédé d'une autre manière. Dès que j'étais endormi, on me réveillait pour l'interrogatoire. On me laissait revenir Et tout ça, ça durait d'ailleurs très peu de temps, c'était 4 à 5 heures par nuit. Donc un minimum, vraiment un minimum de sommeil pour éviter à ce que l'homme devienne fou et pour qu'il puisse continuer à résister aux interrogatoires. Et à ce minimum, ils se sont tenus très strictement.
Vous rêviez ?
J'ai rêvé, bien sûr, mais toujours des cauchemars, c'était toujours des cauchemars. Par exemple, quand les bords de la couverture touchaient dans le sommeil, touchaient les coups, inévitablement, je rêvais de l'exécution, qu'on me mettait la corde au cou. Puisque la condamnation des morts dans mon pays, c'est la pendaison. Et c'était inévitablement toujours des cauchemars, jamais des rêves qui ont permis de m'échapper de cet enfer, de cette monde de prison.
Mais maintenant que vous en êtes sorti, que votre vie est rentrée dans l'ordre entre guillemets, que vous êtes rentré dans la vie dite normale, comment arrivez-vous à vivre avec ce passé, avec ça ?
C'est quand je suis sorti en réclassant dans la vie, c'était un sentiment extraordinaire. C'était un peu comme un vin trop fort. On était grisé par la vie, par tant de choses dont on a apprécié la vraie valeur dans cet isolement, dans cette vie hors du temps, manifestation le plus simple de la vie et qui ont pris une signification, une intensité extraordinaire dans la prison. Et peu à peu, en se retrouvant dans la vie, on se rend compte qu'on a perdu énormément de temps, que beaucoup de choses ont changé. Finalement, on se concilie avec ces choses-là, on essaye de tirer les plus grands profits de ce passé, de son expérience du passé, et de les faire valoir, de les faire profiter à d'autres. C'est pour ça que j'écris un livre sur l'Espagne, c'est pour ça que j'écris surtout mon dernier livre, L'Aveu, pour communiquer cette époque, ce monde qui était ignoré par l'immense majorité des gens et de le faire connaître et ainsi contribuer à éviter des retours possibles et que de telles choses puissent encore se répéter, compléter l'information. Et autrement, au début, il y avait cette intensité, c'était extraordinaire quand on trouvait la vie. Parce qu'il y a une chose, on lutte tous les jours dans la prison avec le temps. On l'affronte jour et nuit, le temps, il pèse terriblement, il vous tient comme un étau serré. Et puis les mois passent, et quand on regarde en arrière, on dit, ça fait 6 mois que je suis ici, 1 an que je suis ici. On n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de temps qui s'est passé. La journée et le temps devant est très long, il finit plus. Et quand on regarde en arrière, on a l'impression qu'il n'y a rien qui s'est passé, parce qu'il ne s'est rien passé. Et on dit déjà un an, déjà 2 ans, c'est 27 mois en isolement complet, déjà 2 ans. On a l'impression que rien ne s'est passé.
Et puis la notion d'avenir pour vous devait être quelque chose de complètement éteint, ça n'existait plus. Enfin, l'avenir c'était... le moment immédiat, c'était l'immédiat.
C'était ça, oui.
C'était le futur immédiat, où on allait venir vous chercher, où tout était inconnu, où vous vous demandiez ce que vous auriez à affronter. Mais il n'y avait pas de futur au-delà de la prison.
Non, aucunement, non. Il y avait un regret, enfin, il y avait beaucoup de regrets, mais entre autres, un regret, c'est d'avoir mal utilisé le temps dans le passé, d'avoir perdu beaucoup de temps dans le passé. Et c'était très souvent les manifestations les plus simples de la vie qui ont amené à cet état d'esprit. Par exemple, un orage dans le ciel, quand il y avait un jour la lucarne ouverte, le ciel zébré par les éclairs, ciel noir, un vent qui apportait l'odeur de pré humide dans la cellule, des grosses gouttes d'eau qui tambourinaient sur la fenêtre, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et on se rappelait les embêtements qu'on avait ressentis quand on était surpris par un orage ou par la pluie. Et on aurait tant voulu cette fois-ci de voir les visages, d'avoir les visages fouettés par la pluie, les gouttes d'eau dégoulinées sur les cheveux, sur les joues. Ou quand on attendait les chants des rossignols le soir, ou le matin très tôt, deux mères qui sifflaient dans la cour silencieuse. Et ça, c'était des manifestations tout simples de, dans la vie, à côté desquelles on a passé sans y faire grande attention ou sans faire attention du tout, et qui ont fait qu'on a regretté.
Votre enfance vous revenait ?
Très souvent, essentiellement, d'ailleurs, je me plongeais dans les souvenirs, quand j'essayais de meubler le temps, échapper à la réalité présente. Et c'était surtout mon enfance, mon temps passé qui
me revenait. Oui, des souvenirs plus lointains. C'était plus lointain, beaucoup plus des souvenirs oui. anciens que des souvenirs oui. récents. Lié oui. à votre vie.
Oui, oui.
Mais est-ce qu'il y a eu des souvenirs, des choses qui vous sont revenues en prison, comme ça ? Oui. C'est-à-dire où la prison a servi de révélateur à certains souvenirs qui étaient très, très enfouis en vous et qui ne seraient sans doute jamais revenus sans ça.
Des séjours à la campagne, par exemple.
Oui, ah oui c'est ça, c'est la campagne.
Oui, des vacances, des voyages.
Oui, c'est la liberté, ce sont tous les souvenirs de liberté. Oui. Oui.
La musique.
Quelle musique ?
Surtout la musique de Beethoven, la musique de Dvorak aussi, de Tchaïkovski, mais en premier lieu préférentiellement la musique de Beethoven.
Qui est une musique de paysage pour vous ?
Que la pastorale, par exemple, la symphonie pastorale. Oui. Et j'ai essayé d'imaginer les sons de différentes œuvres que je me rappelais par mémoire. Et ça m'a beaucoup aidé aussi à supporter le temps. Et ça s'entremêlait avec les souvenirs du passé. C'est au bout d'un certain temps qu'on a cette notion très forte d'avoir été volé, d'avoir été privé, d'un temps précieux, d'avoir été privé de manière irrémédiable, c'est-à-dire il n'y a plus rien à faire. Ce temps est parti, on m'a privé de 5 ans et personne ne pourra plus me reconstituer ce temps-là. Moi-même, je pourrais le faire en meublant cette période, en essayant de la faire revivre sous différents aspects. C'est le seul moyen d'arriver à récupérer un peu de ce temps-là.
Mais l'idée de mort, elle vous fait peur maintenant encore ?
L'idée de la mort ne m'a jamais fait peur parce que pendant la première prison et dans des différentes situations, pendant la guerre d'Espagne, dans la résistance, elle faisait partie du choix que j'avais fait, de cette lutte que j'avais fait et je comptais avec... Il se peut qu'un jour je serai pris, que je serai fusillé ou que je vais mourir en prison ou tué pendant les interrogatoires. Et j'étais concilié avec cette idée-là. J'étais d'ailleurs pendant la guerre, j'étais d'ailleurs plusieurs mois tenu comme otage. Il s'est fallu peu que je sois fusillé à la suite d'un attentat dehors. C'est presque un miracle que ça n'a pas eu lieu. Mais cette idée ne m'a jamais fait peur. J'ai eu peur pendant les 5 années de la dernière prison parce que la mort, là, était autre chose. C'était une mort inutile, c'était une mort honteuse et c'était une mort qui liquidait tout mon passé, toute ma vie. Cette mort-là m'a fait peur. C'est pour ça, d'ailleurs, comme je vous disais tout à l'heure, je m'accrochais à l'idée, avant de mourir, encore trouver un moment, une occasion, de dire la vérité. Et actuellement, j'essaie de ne pas y penser.
Si dans un tribunal imaginaire, vous aviez à faire le procès du temps, quels seraient vos griefs contre le temps ? Ou est-ce que vous seriez du côté de la défense ou de l'accusation ? J'ai un peu honte de parler de procès avec vous, parce que...
C'est du côté de défense, du temps. Le temps est une chose parmi les plus précieuses qui existe dans la vie. Le seul grief que je ferais peut-être, que on n'a pas assez tôt la notion du temps, justement. la jeunesse, enfin, toutes les meilleures années de la vie, on ne se dit pas. C'est important des temps parce qu'on vivra autrement.
Vous venez d'écouter Le Temps Habitable, 8e d'une série d'émissions composées par Vera Feder et réalisées avec le concours de François Bréhigné.
C'était Le Temps Mort, la prison, un numéro des Chemins de la Connaissance diffusé pour la première fois le 29 novembre 1971.